Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bah comme je saurais jamais si je veux un enfant ou pas, essayons, puisque tout le monde dit que c'est génial. Mais moi j'avais déjà une relation très compliquée à tout ça. Dès qu'on parlait d'accouchement, j'avais l'impression que j'allais mourir. En fait, je m'en foutais, moi, de maigrir, de pas dormir. Je voulais vraiment arriver à m'occuper de mon bébé.
Une difficulté psychique à entrer dans l'identité de parent.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Céline.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Céline ?
Ce qui m'amène aujourd'hui du coup c'est pour raconter la rencontre que j'ai eue qui a été chaotique avec ma fille aînée.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah ça s'est pas du tout passé comme prévu. On m'avait tellement dit tu verras c'est génial et en fait ça a été pire que compliqué donc je m'attendais pas du tout à ça.
Avant la rencontre, déjà pendant la grossesse, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ?
Oui, je pense que si je veux, enfin maintenant rétrospectivement, hein, si je veux être honnête avec moi-même, clairement c'était compliqué, je dirais même avant de faire un bébé. Enfin, dès qu'on me parlait, même enfant ou adolescente, du fait d'être mère, tout ça, d'accoucher, ça me provoquait mais des angoisses absolues. Les enfants aussi, ça me terrorisait. Donc en fait, je suis pas, je pense, quelqu'un qui a eu un réel désir d'enfant. On entend souvent maintenant, surtout dans, enfin actuellement, vu qu'on peut plutôt choisir ou pas, enfin entre guillemets, hein, d'avoir un enfant, mais on a l'impression qu'il faut vraiment avoir un désir hyper puissant et assez qui va de soi. Et en fait, je pense que pour moi, c'était pas ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de, peut-être un petit peu le côté social, tout ça qui jouait. Et puis j'ai perdu mon père et je me suis dit, bah comme je saurais jamais si je veux un enfant ou pas, essayons, puisque tout le monde dit que c'est génial. Mais moi j'avais déjà une relation très compliquée à tout ça. Dès qu'on parlait d'accouchement, j'avais l'impression que j'allais mourir. Donc voilà, donc après j'ai été enceinte très rapidement après notre décision avec mon mari d'avoir un bébé. Bah, la grossesse après en elle-même, elle s'est bien passée, physiquement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un peu honte de le dire, mais voilà, je regardais sur Google... des choses comme « peut-on ne pas aimer son enfant ?» Je faisais des recherches comme ça. Et d'ailleurs, je ne trouvais rien quand je mettais ça comme ça. Donc oui, il y avait plein de signes précurseurs, en fait, bien avant la naissance, bien avant la conception même.
Ça, c'est quelque chose que vous avez compris après ?
Oui et non, je le savais en fait, mais je n'avais pas très envie de l'entendre et de le voir. Et puis je ne sais même pas si je peux dire que je regrette, pas forcément, parce que je pense que de toute façon pour moi, si avoir un bébé, ça aurait été compliqué. Alors j'aurais pu peut-être travailler dessus avant et tout, mais dans le fond, je ne pense pas que j'aurais pu faire autrement que de traverser cette expérience comme ça, ou pas avoir d'enfant, c'est vrai. Hein. Mais je le savais d'une certaine façon, mais je ne pensais pas que ce serait comme ça quand même. Si on m'avait dit que je traverserais tout ça, oui, ça aurait très certainement impacté, je sais pas, ma décision ou en tout cas ma façon de me prendre en charge quand ma fille aînée est arrivée. Mmh. Ça c'est sûr, si j'en avais su plus.
Du coup, là, vous dites, voilà, dès la grossesse et même avant la grossesse, il y avait des petits signes précurseurs. Comment s'est passé l'accouchement, la naissance?
Je dirais pas très bien. En fait, je m'étais un petit peu mis dans la tête d'avoir un accouchement. Alors, peut-être pas forcément naturel parce que j'ai très peur de la douleur. Je me sentais pas forcément un accouchement sans péridurale et tout. Mais j'avais quand même envie, j'imaginais, vu que j'étais en bonne santé, les contractions, tout ça. Et puis après, accoucher, la rencontre, je savais pas. Et c'est vrai que ça paraissait le vide hein, quand même. Puis après, on m'a dit non, césarienne programmée parce que ma fille était en siège. Et je l'ai très très mal pris. J'ai commencé, je pense, à m'effondrer, à pleurer. Puis j'ai pas été très entendue à la maternité, mais je pense que moi-même, je n'arrivais pas vraiment à m'expliquer, à m'exprimer comme il fallait. Donc après, elle a fini par arriver le jour programmé où j'étais moi sous une tension énorme. Techniquement, ça s'est bien passé, hein. Et moi, j'avais très peur que de rencontrer mon bébé me fasse exploser. En fait, c'est comme si j'allais pas survivre. Donc, en fait, elle est arrivée, j'ai été soulagée. Alors, j'ai pas eu le fameux coup de foudre dont on parle, hein, mais j'étais soulagée d'être en vie et puis de la voir. Je me disais, c'est quand même dingue, un être humain entier, tout ça. Enfin, je trouvais ça fou quand même. Mais après, très rapidement, je me suis sentie suspendue totalement dans le cosmos, enfin, je sais pas, dans le temps, comme si je pouvais plus respirer. Après, je l'ai lu après, en une espèce d'hypervigilance, enfin, je pouvais plus dormir. Très vite, forcément, hein, enfin, j'ai eu un bébé qui s'est mis à pleurer tout le temps, à pas dormir. Moi, je dormais pas non plus, enfin. Et donc, je comprenais rien au début parce qu'en fait, on m'avait dit, mais c'est normal, les premiers mois sont chaotiques, t'es fatiguée. Ok, enfin, puis j'ai bien vu que ça n'allait pas du tout, mais mon entourage, famille plus élargie, fermait les yeux, et même mon mari, je pense qu'il comprenait pas, enfin, lui aussi, il était crevé, du coup, vu ce qu'on vivait. En plus, il s'était cassé le tendon d'Achille, enfin, c'était bien le moment. Mais du coup, nous, on comprenait rien, en plus, on est enfants uniques tous les deux, enfin, on connaissait rien du tout aux enfants. Puis je voyais bien que ça n'allait pas, et j'ai une amie qui me dit « Tiens, voilà un bouquin, tu vas voir, ça va te rassurer, tu verras, il y a pire que toi ». Ce bouquin, c'était « Tremblement de mer » de Maman Blouse, et donc je me suis dit « Non, c'est exactement ça, c'est pas du tout... je sais pas si c'est rassurant ou pas rassurant, mais si, plutôt de se dire que ça existe, que c'était pas un truc complètement... ça me semblait abominable, mais... Mais en tout cas, ça existait. Donc après, de là, j'ai découvert l'association. Donc là, j'ai pu lire plein de choses. J'ai vu un reportage sur la maternologie où j'ai pleuré comme une madeleine parce que je me retrouvais complètement dans les témoignages. Et donc là, j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose. Parce que je dormais pas. C'était horrible, quoi. Donc il n'y avait pas que ça. Hein.
Il y avait quoi d'autre, plus du sommeil?
De mon côté, j'ai tout eu, je pense. Enfin, je me trouvais nulle. Je me disais, mais ce bébé, moi, je peux pas m'en occuper. Elle est toute innocente, toute fragile, mais moi, je peux rien pour elle. Elle a besoin d'une autre mère. Donc, avec le recul, on se dit qu'on se dévalorisait, mais sur le moment, c'était pas ça. Enfin, je me sentais pas du tout capable de. J'avais pas les épaules, quoi. Enfin, pour moi, c'était ingérable. Après, j'ai eu carrément. Alors, ça a été le pire, je pense. Enfin, une des choses les pires, les phobies d'impulsion. Donc quand on a peur de faire mal à son bébé, qu'on a des flashs qui traversent la tête. Et ça, c'était terrible. Ça me tuait, quoi. Puis il y avait tout, hein. Enfin, je dormais plus, je l'ai assez dit. Mais je mangeais plus beaucoup, j'étais déphasée, j'avais plus goût à rien. Enfin, c'était... Puis j'avais vraiment une souffrance, comme j'avais l'impression d'être explosée en mille morceaux, quoi. Enfin, c'était vraiment violent, quoi. Et je pense que ça ne se voyait pas, enfin... Mais c'est pas que parce que je voulais garder la face, j'étais pas là-dedans, hein. Mais ça ressort pas non plus qu'on vit de l'intérieur hyper nettement, parce que la péricultrice de secteur était passée et tout. Donc j'évoquais surtout les difficultés de sommeil de mon bébé. Pas que je voulais cacher des choses, j'ai jamais été là-dedans, mais je pense que moi-même je me rendais pas compte. Enfin, pas suffisamment compte en fait. Je prenais pas la mesure.
Les phobies d'impulsion, Céline, c'était des images qui s'imposaient à vous, par exemple, ou des sensations
Des images, plutôt, ouais, où je me voyais faire du mal à mon bébé, quoi, comme ça, un flash, et qui venait, qui repartait. Et ça, c'était affreux. Je me disais, mais ça veut dire que je suis un monstre, je vais faire du mal à mon bébé, mais qui je suis, c'était vraiment, vraiment horrible, ce truc-là.
Vous dites, Céline, qu'il y a eu du coup des professionnels, la puéricultrice qui est venue à la maison, etc. Est-ce que vous avez osé leur parler, voilà, de, de cette impression d'être en mille morceaux à l'intérieur de vous? Est-ce que vous arriviez à parler de ça?
Bah, les tout premiers temps, non, parce que je pense que c'est venu crescendo aussi. Ça a été de pire en pire, en fait. Au début, c'était juste « je suis crevée, je suis épuisée, je suis dépassée ». Le bébé, ma fille aînée, donc elle pleurait et dormait pas. Donc c'était ça qui était le plus, qui sur le devant de la scène. Puis après, au bout de, je dirais peut-être 2 mois et demi, 3 mois, je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. Et c'est là où du coup, je suis allée à la PMI. Mm-hmm. Et je me souviendrai toujours que la péricultrice me parlait d'allaitement, qu'il fallait que j'arrête d'allaiter aussi souvent ou je sais pas quoi. Enfin, je prépare la reprise du travail. Et dans ma tête, je me disais, mais je m'en fous, c'est pas la question. Enfin, mais elle a été très bien, hein. Par contre, elle m'a en plus donné les... Enfin, c'est juste que c'est... Voilà, tout était déconnecté. Elle m'a donné les coordonnées d'une unité parent-bébé, où il y a des professionnels, du coup. Et à partir de là, après, oui, j'ai eu tout un suivi.
Comment il s'est mis en place, ce suivi?
Du coup, au début, c'était des rendez-vous avec un psychologue, donc avec moi, mon conjoint, s'il pouvait, et puis notre bébé.
C'est vous, Céline, qui avez contacté l'unité parent-bébé?
Oui, sur les conseils de la PMI, du coup. Et en fait, très vite, c'est vrai que c'était assez impressionnant ce qui s'y passait, hein, enfin, dans... Quand on voit les yeux, enfin, je sais pas, moi, par exemple, je disais, je peux pas poser ce bébé, elle pleure tout le temps. Et dans un autre cadre, j'ai pu la poser. Enfin, c'était quelque chose de rassurant, de sécurisant. Mais j'étais trop mal, j'étais allée trop loin dans le mal-être et ça suffisait pas. Enfin, pas à ce moment-là. Et du coup, après, j'ai demandé mon hospitalisation parce que sur le site de Maman Blouse, j'avais découvert les unités mère-bébé. Donc, du coup, de là, il m'avait dit, appelez-moi, il voyait que j'allais vraiment pas bien du tout. Il a dit, appelez si. Si ça va pas, et j'ai demandé, il a fait une lettre, et puis après, je répondais un peu à tous les critères. Voilà, donc il y avait de la place, et ma fille et moi, du coup, on a été hospitalisés en unité mère-bébé pendant 2 mois.
Qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps d'hospitalisation pour vous et votre fille?
Déjà, moi, ça me rassurait beaucoup d'être prise en charge. Je me disais, là, je lui ferai pas de mal, il y a aussi d'autres gens qui vont s'occuper d'elle, et... je me disais qu'ils feront mieux que moi. Avec le recul, je me dis, pas forcément, en fait. Et puis moi, on va peut-être faire quelque chose aussi pour moi. Enfin, ça me rassurait d'être dans un autre cadre, en fait, qui serait un peu sécurisant, quoi. Même physiquement, hein, moi, je pense que j'en étais arrivée à un stade où j'aurais pu me foutre en l'air sans... Enfin, pas sans m'en rendre compte, mais il y avait un peu de ça, quoi. Enfin, donc, c'était un peu... c'était pour sauver notre peau, quoi. C'était un peu de ça. Enfin, voilà. Curieusement, ma fille, j'avais eu des petits éclairs de comme ça, où je l'avais quand même rencontrée, même chez moi, où finalement il y a eu quelques moments un peu magiques qui émergeaient comme ça, que ce soit à la maison ou même pendant l'hospitalisation, où je me souviens que j'avais même profité de ces petits areux. Enfin, il y a des choses qui se passaient quand même, et là je pense que ça a aidé à ce que ça se mette en place peut-être mieux, et puis moi à ce que je redescende aussi en pression, parce qu'en fait quand on est complètement partie, c'est compliqué aussi. C'était compliqué de la voir. Puis dès que je la voyais, dès que je me levais le matin, j'avais mal. Je supportais pas de la voir. Pas de sa faute à elle, bien sûr, hein, mais ça me faisait trop mal de la voir, quoi. Donc je pouvais en parler, on était prises en charge toutes les deux. Ça me rassurait même pour elle. J'avais tellement peur qu'elle en pâtisse, quoi. Donc du coup... puis après, j'ai quand même eu aussi un traitement antidépresseur. Il y a eu plein de choses. Il y avait un suivi pour elle et moi qui était... au quotidien. Donc c'est sûr que quand on est sorti, je m'attendais au déclic merveilleux, je l'ai attendu, il n'est jamais venu. Le déclic du genre, ça y est, c'est bon, c'est fait, tout va bien maintenant. C'était pas ça, mais par contre, oui, j'ai pu ressortir avec elle en pouvant m'occuper d'elle, même parfois toute seule.
De manière plus sereine.
Alors finalement, la sérénité, on était loin du compte encore. Mais ouais, en étant debout et en me raccrochant après à la vie, que c'était possible de vivre une nouvelle vie avec ma fille. Même si ça n'a pas été simple pendant encore de longs mois, quoi.
L'accompagnement s'est poursuivi après l'hospitalisation?
Ouais, bien sûr. Ouais. Avec dont l'unité parent-bébé, donc des rendez-vous hebdomadaires avec le psychologue, toujours le même. Et puis pour moi aussi, hein. Voilà. Oui, ça s'est poursuivi assez longtemps quand même, hein. Oui. Ah oui, parce que finalement, maintenant, ma fille, elle a 5 ans. Et en fait, je me rends compte que même maintenant, les choses continuent d'évoluer. Ce que je me suis dit, peut-être au bout d'1 an et demi, ça commençait à aller bien mieux, il y avait des bons moments, mais je pouvais être encore me sentir un peu en apnée, prisonnière, envahie. Il y a plein de choses encore finalement où ma fille, après oui, c'est vrai qu'elle est quand même sensible. Hein. Et je pouvais mal vivre ses réactions, tout ça. Et en fait, plus le temps passe, parfois quand je me retourne et je me dis, mais les choses, je croyais pas, mais elles continuent d'évoluer bien, enfin, entre elle et moi, ou pour elle, ou pour moi, enfin, sur du vraiment long terme, en fait. Et j'ai jamais eu le déclic promis. Mais par contre, plein de beaux moments qui, heureusement, sont arrivés, mais ça a vraiment été long chez moi.
Ce que vous disiez, Céline, c'est que dès finalement sa naissance, il y a eu des petits moments de rencontres et d'échanges avec votre fille. Puis le temps d'hospitalisation a permis finalement de donner plus de place à ces moments de rencontres. Et plus vous la rencontriez, plus finalement vous sentiez en capacité de pouvoir vous occuper d'elle.
Oui, c'est sûr que ça joue. Oui. Ah bah oui, quand on se sent en lien avec son bébé, qu'on commence à ressentir l'affection, parce que c'est bien ça, hein. En fait, le truc, c'est que moi, je m'en sentais coupée de mon bébé. C'est ça qui faisait très mal. Je m'en foutais de me sentir dépressive, en fait. Enfin, c'est bizarre à dire, mais ce que je voulais, c'était mon bébé. Enfin, si, j'ai bien eu peur qu'on me l'enlève quand même à un moment donné, mais c'était pas tant ça. Je voulais mon bébé au sens, je voulais qu'il y ait une relation entre nous, que pas ce gros, cette chape de plomb, en fait. Et oui, c'est sûr que quand il y a des beaux moments, quand on... Elle a commencé à rigoler, on a pu jouer ensemble. C'est sûr que c'est ça qui fait qu'après, je me suis sentie mère peu à peu. Puis après, j'ai bien vu aussi en grandissant qu'elle me reconnaissait comme sa maman. Moi, j'ai pris aussi cette place petit à petit. Hein. Mais oui, c'est sûr que c'est quand même ces moments-là qui font tout. Enfin, tout, je sais pas, mais ça qui donne du sens à ce qu'on a vécu.
Ce qui était douloureux pour vous, Céline, c'est pas de ressentir cet amour qu'on vous avait promis, qui arriverait tout de suite. Là, finalement, vous nous dites que ça s'est construit dans le temps.
Oui. Ah oui, ça, c'était vraiment le plus douloureux parce que on se dit, ce petit bébé qui vient d'arriver, il a rien demandé, quoi. Donc, justement, on dit toujours les bébés, ils demandent qu'à être aimés et tout ça. Enfin, on entend beaucoup ça et c'est vrai, hein. Et moi, j'arrivais pas à lui donner. Je me disais, mais j'ai rien en moi à lui donner. Enfin, et ça, c'était terrible. Enfin, c'était le plus dur. En fait, je m'en foutais, moi, de maigrir, de pas dormir. Je voulais vraiment arriver à m'occuper de mon bébé et puis être en lien avec elle.
Que tout aille bien pour elle.
Ouais, je voulais qu'elle grandisse bien aussi.
Est-ce que le temps vous a permis de voir qu'elle grandissait bien?
Alors, on va dire, pour être tout à fait honnête, oui et non. Oui, parce que maintenant, aujourd'hui, je peux le dire oui, mais longtemps, je me suis inquiétée. Et si ma fille, parce que c'est vrai, on va le dire, elle est quand même... c'est une enfant joyeuse, mais qui est assez inquiète. Un petit peu plus que d'autres enfants, sûrement. Et j'avais tout le temps peur de l'avoir abîmée. De me dire, là, il y a eu des périodes de sa petite enfance. Elle avait peur d'aller jouer avec les autres enfants. Elle dormait pas très bien. Côté de ça, par contre, elle a très vite parlé, elle apprenait, dans les apprentissages, tout se passait bien, mais moi, j'avais peur qu'elle soit une angoissée comme moi, en plus. Et j'avais peur, et là, je vois que elle est en grande section de maternelle, qu'elle a des amis, ça se passe bien à l'école. Alors oui, elle s'inquiète. Alors moi, forcément, de mon vécu, je fais beaucoup le lien avec la difficulté que j'ai eue. Après, j'ai travaillé aussi avec ma thérapeute qui m'a dit il y a d'autres enfants dont les mamans n'ont pas traversé une telle difficulté et qui ont aussi leurs propres difficultés à eux. Donc, quelle est la part, je ne sais pas. Mais non, elle va bien. Elle va bien. Avec oui, elle a des inquiétudes, mais au fond, comme tous les êtres humains. Donc, peut-être un peu plus, hein, mais elle va bien, en fait. Elle a le sourire, quoi. Puis ça se passe bien entre nous, en fait. Enfin, ça se passe bien. Mais c'est venu tellement progressivement que ça fait même bizarre à dire, en fait.
Est-ce que vous avez eu d'autres enfants, Céline, depuis?
Oui. Une autre petite fille, 3 ans et demi après. En fait, on est enfants uniques tous les deux. Et dans ma tête, je m'étais dit, je sais pas si je veux des enfants, mais si j'en ai, ce sera deux. Alors, bien sûr, après ce que j'avais vécu, c'était pas pour être complètement ancrée dans ce truc, mais bizarrement, j'ai senti quand même là, pour le coup, un désir d'enfant qui m'appartenait plus. Avec, il y avait quand même des angoisses un petit peu, mais... Et du coup, on était OK tous les deux. Donc, on a eu une autre petite fille 3 ans et demi après. Et voilà, une autre expérience, mais on, voilà, avec quand même des choses un petit peu qui se sont retrouvées aussi. Hein. Ça n'a pas été du tout au tout différent, mais ouais, si, quand même très différent aussi.
Qu'est-ce qui a pu être identique ?
Bah, identique, c'est que ouais, j'avais quand même encore cette peur de l'accouchement, peur de ne pas être assez bien comme mère. J'ai eu encore une phase, j'ai trop de mal à dormir. Voilà, mais alors là, déjà, j'avais tout identifié, les professionnels en qui j'avais confiance. Je n'ai jamais ressenti cette apnée, tout ça, jamais eu de phobie d'impulsion. La rencontre, je me souviens, elle n'a pas été immédiate, une fois de plus, mais ça, je m'y étais un peu préparée. Mais elle a été assez rapide et très vite, je me suis dit, quand elle me regarde, elle sait que je suis sa mère et je sais que c'est mon bébé. Enfin, il y a un tout. Enfin, je sais pas, enfin, ça s'explique pas trop, mais c'est venu beaucoup plus vite. Donc, oui, il y a bien. Enfin, je pense que pour d'autres personnes, ça a été sûrement dur quand même. Mais pour moi, à côté, c'était pas facile, mais oui, ça s'est fait beaucoup plus vite et plus simplement. Avec, ouais. Mais au final, je pourrais pas dire que j'ai une meilleure relation avec ma deuxième que ma première actuellement. Enfin, elles sont très différentes. Elles ont des caractères très différents et ça se passe différemment. Elles n'ont pas le même âge, mais enfin voilà, je les aime pareil. Enfin pareil. Non, pas forcément de la même façon. Pas forcément de la même façon, mais je souffre pas de me dire que j'en privilégie une par rapport à l'autre. Je ressens pas ça. Et puis je suis très contente qu'elle soit sœur aussi. J'avais pas vécu cette expérience-là, mais c'est un vrai plaisir de découvrir ça aussi.
Merci Céline. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte Élise Marsand. Bonjour Élise Marsand. Vous êtes présidente de l'association Maman Blouse, qui accompagne des mères en difficulté dans leur maternité, et vous êtes aussi maman de deux enfants, une fille de 11 ans et un garçon de 7 ans. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne des mères qui ne se sentent pas bien, qui sont parfois en grande souffrance depuis la naissance de leur bébé, comme Céline vient de nous en témoigner. Elles rencontrent des difficultés dans la création du lien avec leur enfant. La maternité qu'elles vivent est souvent très éloignée de ce qu'elles ont pu en imaginer, très loin également des représentations sociales qui peuvent être véhiculées aujourd'hui. Élise, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle difficulté maternelle ?
La difficulté maternelle, je vais reprendre la définition qu'on trouve sur le site internet de Maman Blouse, qui est une définition plutôt théorique, mais qui permet de comprendre un peu mieux de quoi on parle. Donc, on parle de l'ensemble des manifestations émotionnelles, psychiques et somatiques, douloureuses et pathologiques, qui surgissent pendant une grossesse, après une naissance ou une adoption issue d'achoppement ou de blocage dans le processus psychique de maternité. Les effets et ou conséquences peuvent être perceptibles tant chez la mère que chez l'enfant. Donc, on est vraiment sur une difficulté psychique à entrer dans l'identité de parent. Chez les femmes, ça ne se manifeste pas toujours de la même façon et c'est pour ça qu'on utilise cette expression difficulté maternelle. Ça permet de toucher toutes les femmes et pas seulement celles qui seraient dans une dépression du postpartum, par exemple. On est vraiment sur un terme qui englobe plusieurs choses et qui permet à chacune de pouvoir s'y retrouver. Donc, on va accompagner, enfin, soutenir des femmes sur des dépressions pendant la grossesse, sur des femmes qui ont des troubles anxieux aussi pendant la grossesse. Il y a aussi des femmes qui viennent par la suite pour des dépressions du postpartum, mais pas seulement. Pour certaines, c'est des troubles d'attachement avec le bébé qui ne vont pas se manifester dans de la dépression, mais vraiment dans quelque chose qui est compliqué à tisser avec cet enfant et dans le lien qui ne se fait pas ou qui se fait difficilement.
Souvent, c'est quelque chose qu'on a évoqué dans parentalité, les deux facettes de la grossesse, la facette physiologique, biologique, et puis la facette psychique. Et là, c'est de ça vraiment dont ça parle.
En fait, les femmes sont extrêmement accompagnées sur des grossesses qu'on peut dire. Alors, on parle aujourd'hui d'hypermédicalisation. En tout cas, c'est des grossesses qui sont très accompagnées physiquement, mais qui le sont en général assez peu psychiquement. Et le postpartum, c'est quelque chose qui est très, très peu accompagné aussi. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un focus sur comment est la mère, comment elle va physiquement, est-ce que le bébé se porte bien, est-ce qu'il n'y a pas trop de contractions, est-ce que les choses se déroulent classiquement pendant la grossesse. Mais on interroge assez rarement la question du psychisme et comment elles vivent cette maternité, enfin ce début de maternité, parce qu'on est juste au début, mais en tout cas, comment elles le vivent, elles, mentalement et comment comment ça va se dérouler pour la suite. Et en postpartum, souvent, on est aussi sur cette question physique, comment elles se sentent depuis l'accouchement physiquement, est-ce qu'il y a des séquelles, entre guillemets, mais on interroge assez peu le psychisme.
Et le vécu est émotionnel. Du coup, après cette définition, Élise, qu'est-ce que ça n'est pas, la difficulté maternelle ?
Alors, on a parfois des femmes qui nous contactent en nous parlant de burn-out parental.
C'est deux problématiques qui ne sont pas accompagnées de la même façon, qui n'interrogent pas la même chose. En fait, dans la difficulté maternelle, on est vraiment sur la question du lien à l'enfant et de ce que la naissance vient réveiller, révéler. Alors que le burn-out est plutôt sur quelque chose d'environnemental. On parle beaucoup de charge mentale aujourd'hui qui pèse sur les femmes. Ça ne vient pas interroger le lien à l'enfant, ça vient interroger ce qu'elles supportent dans la vie en général et le fait qu'elles doivent, la plupart du temps, être sur tous les terrains, professionnellement parlant. Elles doivent être là aussi à la maison, elles doivent assurer de tous les côtés.
Oui, on en a parlé dans un épisode de parentalité avec Moira Mikola-Jack.
Donc, ce n'est pas le burn-out. Après, on creuse toujours sur cette question de burn-out parce que parfois, dire qu'on est en burn-out, c'est plus acceptable que dire qu'on est en difficulté maternelle. L'expression difficulté maternelle vient révéler quelque chose de douloureux et pas... le burn-out parental, c'est douloureux, mais c'est entendable. Le fait qu'on ne soit pas en lien avec cet enfant, ce n'est pas entendable. Donc aujourd'hui, certaines femmes emploient le terme de burn-out alors qu'elles ne le sont pas. Mais en tout cas, voilà, nous, on cherche toujours à creuser de ce côté-là. Après, la difficulté maternelle, ce n'est pas non plus les difficultés que l'on peut éprouver au quotidien. Les difficultés éducatives peuvent découler d'une difficulté maternelle. Mais certaines femmes nous contactent sur des questions de... mon enfant fait des colères ou des choses sur lesquelles on n'a pas d'expertise réelle. Et puis, c'est des choses sur lesquelles elles peuvent être accompagnées avec un professionnel de santé. Je pense particulièrement à les PMI ou des psychologues en libéraux qui accompagnent. Mais on n'est pas sur cette question-là. Là, on n'est pas sur du lien, on est sur comment je fais avec cet enfant que je ne comprends pas nécessairement parce qu'il fait des grosses colères, mais avec qui je ne suis pas en difficulté.
Oui, donc on voit bien la différence dans ce que vous nous dites. Est-ce que cette question de la difficulté maternelle, c'est quelque chose qui est récent ? On en parle de plus en plus, pas encore assez, mais...
C'est pas quelque chose de récent dans le sens où on parlait déjà de la folie des mères bien, bien avant. Déjà à l'époque grecque chez Hippocrate. Ensuite, ça a été mentionné par d'autres personnes qui ont travaillé dessus. On s'inquiète, je dirais, un peu plus de l'état psychique des femmes. Alors, je dis un peu plus, je dis pas complètement, mais on a plus à cœur d'accompagner les femmes sur ce pendant-là parce qu'on est plus inquiet pour les enfants. En fait, la problématique, elle est autour du bébé et de comment lui, il va évoluer par rapport à la difficulté de sa mère. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Après, ce qui, aujourd'hui, a un impact fort sur le fait qu'on en parle, mais c'est quelque chose qui est plus présent, entre guillemets, c'est le fait que les femmes, il y a un grand isolement aujourd'hui, des femmes en postpartum, d'une part. Et puis, il y a la question du village qu'il y avait autour des femmes auparavant, qui n'est plus aujourd'hui. Il n'y a plus de village. Généralement, les femmes rentrent à domicile après avoir couché. Le mari va reprendre quelques jours après, voire un mois après, s'il a pu poser des congés. Et ensuite, elles se retrouvent seules. Géographiquement parlant, souvent, les familles sont éclatées. Donc, il y a peu de relais à domicile. S'il y en a, c'est super, mais ce n'est pas nécessairement le cas. L'isolement des femmes est beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a plusieurs siècles en arrière. C'est ce qui revient régulièrement sur le fait qu'elles se sentent extrêmement seules en rentrant et sur le fait qu'elles se sont 24-24 avec cet enfant, que le mari peut être absent de la maison pendant un certain nombre d'heures la journée. S'il a des amplitudes horaires conséquentes, c'est un mari qu'elle ne voit peu. Et c'est parfois des maris aussi qui prennent peu le relais la nuit. Donc, parfois, elles sont extrêmement seules sur des journées complètes. Donc, c'est un facteur aggravant plus.
Alors, Céline nous a dit, voilà, finalement, dès la grossesse, il y avait des petits signaux d'alerte. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres ? Donc là, vous nous parlez de l'isolement. Là, je pense à ces femmes aussi dont la famille peut être loin, à l'étranger.
En fait, on parle beaucoup de facteurs de vulnérabilité psychique. Les personnels soignants ont besoin de s'appuyer sur certaines choses. Après, il peut y avoir un facteur précurseur. Par exemple, un accompagnement de la grossesse qui n'est pas... je ne vais pas parler de bienveillance, mais en tout cas, quelque chose qui englobe la femme sur des grossesses pathologiques ou des grossesses qui ne le sont pas, mais qui sont extrêmement anxiogènes, ça peut être quelque chose qui peut être précurseur d'une difficulté maternelle. Ça ne sera pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs qui peut venir jouer dans la relation mère-bébé, parce que cette grossesse a été difficile, parce qu'il y a eu des difficultés aussi à l'appréhender, mais surtout à rentrer en lien avec le bébé même pendant la grossesse. Quand il y a eu des menaces de fausse couche, des menaces d'accouchement prématuré, le lien, il en prend un coup. Les parcours de PMA, c'est aussi des femmes qu'on voit de plus en plus au sein de l'association, parce qu'elles l'ont tellement attendu, et ça a été quelque chose qui est désiré, que quand l'enfant est là, elles n'ont pas le droit de se plaindre.
Du coup, vous nous parliez déjà un peu tout à l'heure dans la définition des différents visages de la difficulté maternelle, Élise. Alors, quels sont ces différents visages ? Vous avez évoqué le terme de dépression du postpartum, qui est voilà, le terme dont on entend le plus parler.
On entend parler, ouais, beaucoup, beaucoup, du baby blues, qui est quelque chose considéré comme non pathologique, qui touche 50 à 80% des femmes. Et donc, c'est quelque chose d'assez court qui dure normalement, en général, dans les 15 premiers jours qui succèdent la naissance. Ensuite, on va être sur d'autres choses. Je n'ai pas mentionné la dépression anténatale. Là, on est sur des dépressions pendant la grossesse, mais c'est quelque chose qui en fait partie.
Mais le baby blues, est-ce que c'est une difficulté maternelle ?
Certains s'accordent à dire que oui. C'est déjà des prémices de difficulté. Si c'est quelque chose qui n'est pas entendu, qui n'est pas nécessairement posé, même la mère qui vient juste d'accoucher, quand elle l'évoque auprès d'un professionnel de santé comme une sage-femme ou une auxiliaire PU, le fait qu'elle puisse le verbaliser, qu'elle puisse dire que c'est compliqué, qu'elle n'avait pas imaginé ça, qu'elle ressent un tas d'émotions ambivalentes, qu'elle est triste, elle est joyeuse, enfin qu'il y a une
grande labilité de l'humeur.
Voilà, tout à fait. Le fait qu'elle puisse en parler, souvent ça permet d'évoquer que c'est compliqué, mais qu'en fait c'est pas quelque chose qui va perdurer. On va les rassurer. On va leur dire que c'est normal sur cette période qu'elle soit dans cet état émotionnel. Et la plupart du temps, je l'espère, on va aussi leur dire que c'est quelque chose qui ne doit pas durer dans le temps. Donc, ne pas hésiter ensuite à en parler. Certains professionnels de santé considèrent que le baby blues est déjà quelque chose qui fait partie de la difficulté maternelle et qui doit être appréhendé comme tel et donc soutenu.
Un signe d'alerte.
Oui, tout à fait.
Céline, est-ce que vous avez connu ce baby blues ?
Si par baby blues on entend le fait de pleurer ou de se manifester comme ça, non, en fait, ça se voyait pas du tout. À l'intérieur de moi, oui, mais non, sinon ça se voyait pas.
D'accord. Du coup, après, vous alliez nous parler de la dépression du postpartum, Élise ?
Oui, la dépression du postpartum, aujourd'hui, on parle de 15 à 20% des femmes qui seraient touchées par cette difficulté-là. On sait que c'est des chiffres officiels, pas des chiffres officieux. Il y a toutes les femmes qui n'en parleront jamais.
En gros, Élise, là, vous nous dites quand même 15 à 20% des mères.
Ouais.
Sur environ, en moyenne, 800 000 naissances par an en France, ça fait entre 100 000 et 160 000 femmes qui seraient concernées par cette problématique seulement de la dépression du postpartum.
Complètement. Donc, ça signifie qu'en fait, si on englobe, si on prend toutes les manifestations émotionnelles que peuvent vivre les femmes en postpartum, on est sur quelque chose, en termes de chiffres, en termes de statistiques, sur un chiffre assez élevé, en définitive, de femmes qui sont en difficulté après la naissance. Après, c'est des difficultés qui ne sont pas toujours égales et qui ne sont pas toujours des difficultés qui vont nécessiter une prise en charge très importante. Ça, pour certaines femmes, ça va être juste une prise en charge avec un psychologue libéral qu'elles vont voir de façon régulière pendant une période. Pour d'autres femmes qui sont dans l'incapacité d'être en présence de leur bébé et de s'en occuper, effectivement, ça va nécessiter une prise en charge en unité mère-bébé.
Donc, c'est une vraie problématique de santé publique.
Complètement. Qui, pour l'instant, n'est pas pris, je trouve, en compte assez. Mais, je vais mesurer mes mots, la question du rapport des 1000 jours, la commission des 1000 jours, indique qu'il y a une vraie réflexion autour de ce sujet, de la dépression du postpartum seulement, on n'est pas sur autre chose, sur la dépression du postpartum, mais c'est déjà énorme, et sur le fait que, voilà, on va réfléchir à la question des visites à domicile et de la manière dont elles vont être proposées un peu plus régulièrement, et surtout peut-être bien plus porté sur la question du psychique, pas seulement sur le côté physique, mais vraiment aussi sur la question du psychisme. Il souhaiterait ouvrir 10 unités mère-bébé en plus. Donc ça, c'est pareil, on ne sait pas sur la question de quand ça va être mis en place. C'est très certainement pas pour 2021, c'est quelque chose qui se réfléchit. Et en plus, aujourd'hui, la question des pédopsychiatres, parce qu'en général, en unité mère-bébé, il y a des pédopsies, La question du fait qu'il y ait des pédopsies et qu'ils sont quand même en nombre restreint aujourd'hui pose quand même une question d'ordre organisationnel de départ. Et puis, il y a une autre chose qui a été mentionnée sur la question du rapport de la commission des 1000 jours, c'est aussi le congé paternité, sachant que 7 jours ont été rendus obligatoires. Alors, à partir de juillet 2021, c'est encore pas acté totalement, les papas auront 7 jours obligatoires. Et ensuite, ça pourra aller jusqu'à, je crois, 21 jours. Je n'ai plus le nombre de jours complet.
Ça fait 28 précis. Jours au total.
28 jours. 7 jours après une naissance qui peut être difficile physiquement, ça reste assez restreint. Voilà, on sait que la présence des pères est quand même importante et pour la femme et pour eux-mêmes, pour qu'aussi ils arrivent à rentrer en lien avec ce bébé et qu'ils arrivent à se sentir père de cet enfant.
En tout cas, là, vous nous dites qu'en effet, la commission 10 000 jours qui a rendu son rapport en septembre 2020 montre bien qu'il y a une prise de conscience de ces problématiques et une volonté de faire évoluer les choses, l'accompagnement des futurs parents et leur prise en charge lorsqu'il y a des difficultés.
Complètement. Je pense qu'il y avait vraiment une impensée autour de ça. Et je pense que la question aussi du suicide maternel vient vraiment... appuyer sur cette prise de conscience.
Oui, parce que vous nous l'avez pas dit, Élise, mais le suicide maternel est la première cause de décès dans l'année qui suit l'enfant aujourd'hui. Ça n'est plus l'hémorragie de la délivrance. On est devenu très performant pour prendre en charge ces situations. Et d'ailleurs, Céline, vous nous l'avez dit, voilà, vous auriez pu mettre fin à vos jours, ça aurait pu arriver.
Oui, tout à fait. Quand on est dans un tel état de détresse, oui, ça aurait pu tout à fait arriver. Oui. C'est bien pour ça que j'ai demandé l'hospitalisation. Je me suis dit, là, il faut faire quelque chose de fort. Enfin, je me disais, si je restais à la maison, ça va mal se passer, quoi.
Est-ce qu'il y a eu des mots, alors, dans ces différents visages de difficultés maternelles? Est-ce qu'on vous a dit, Céline, que vous faisiez une dépression du postpartum? Est-ce qu'il y a eu ce mot de poser?
Oui, la pédopsychiatre de l'unité mère-bébé, à qui j'avais dit, mais je suis pas dépressive, parce que je voyais pas ça comme ça. Je voyais vraiment au centre, j'avais envie de me sentir bien avec mon bébé. Je m'en foutais de cette dépression, même si je voyais bien que ça n'allait pas. Elle me dit, mais vous êtes très dépressive, là. Ouais. Oui, ça a été posé aussi, mais pas de... C'est ce que j'ai aimé, parce que j'en avais visité 2 unités parents-bébé. Dans l'une, j'avais l'impression d'être un cas un peu psychiatrique qu'on allait soigner. Et de l'autre, il y avait cette idée de dépression qui était importante quand même, et qui l'est, c'est vrai. Mais c'était pas que ça. On voulait bien reconnaître le reste, en fait. Et voilà, c'est ce qui m'a touchée. Mais oui, ça a été reconnu et c'était important aussi. Même si ça englobe pas tout, c'est vrai.
Oui, parce que ces termes de nosographie psychiatrique ne signifient pas qu'il y a déjà des antécédents de troubles psychiques chez des femmes rencontrant des difficultés.
Non, tout à fait. En fait, c'est aussi le combat de l'association Maman Blue, c'est de dire que toute femme peut être touchée par une dépression du postpartum, par une difficulté maternelle plus largement. En fait, chez le tableau qu'on a, nous, chez Maman Blue, c'est des femmes qui nous contactent. En général, c'est des femmes, justement, qui n'ont pas d'antécédents. C'est des femmes qui n'ont pas été pointées du doigt en disant « Elle, il faut s'en inquiéter. Il y a déjà des facteurs de vulnérabilité. Je pense qu'il faut... les professionnels de santé pensent qu'il faut vraiment entourer sa grossesse et son postpartum, et donc il y a déjà des choses qui sont mises en place. Nous, ce qu'on voit chez Maman Blue, c'est toutes ces femmes qui n'ont pas de facteurs de vulnérabilité, qui ne sont pas à risque ou qui ne sont pas inquiétantes de prime abord, et donc pour le coup, ça va passer vraiment à travers, elles vont passer à travers de la prise en charge, et elles vont se retrouver souvent à domicile sur une période plus ou moins longue où elles sentent que quelque chose est compliqué, est pas normal, où elles sont pas comme d'habitude, mais où elles se disent que on a mentionné que c'était dû à la fatigue, que c'était dû à l'accouchement, qu'elles allaient retrouver leur état psychique normal, et donc elles laissent pas les choses dériver parce qu'elles veulent laisser dériver, elles le font parce que souvent on a aussi dit que c'était normal, et donc en général elles arrivent plutôt vers les 4-6 mois de l'enfant, voire plus tardivement, parce qu'elles ont attendu que ça passe. Et en fait, ça ne passe pas, puisqu'en général, quand on sait qu'on n'est pas comme d'habitude, dans la vie, en général, on sait qu'on va aller faire quelque chose, on va aller consulter. Dans le postpartum, il y a la question vraiment de la fatigue qui pèse, qui empêche d'aller consulter, parce qu'on se dit que c'est dû à la fatigue et que ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, on entend beaucoup dire que la fatigue peut être... le retour à son état physique d'avant, mais un certain temps, et qu'on se remet assez... sur une durée plutôt longue du postpartum. Donc, pour parfois, on ne s'interroge pas sur le psychisme.
En effet, là, ça m'évoque plein de patientes que j'accompagne qui disent, et comme vous l'avez dit aussi, Céline, la minimisation de ce qui peut être vécu ou ressenti ou de cette fatigue. Voilà, on dédramatise, mais pour autant, souvent, quand on écoute vraiment les femmes, on entend qu'elles sentent bien que la fatigue, ce n'est pas n'importe quelle fatigue et qu'en effet, ça ne va pas partir comme ça du jour au lendemain.
Oui, oui, c'est vraiment, enfin, moi, ce que vous avez dit, Élise, c'est vraiment ça. Enfin, vu que moi, j'étais, j'avais un travail, un mari, j'étais très lambda. Avec, par contre, oui, plein d'angoisse, moi, je le savais, mais il n'y avait rien de psychiatrique. Et j'ai vraiment ressenti les choses, comme vous avez dit toutes les deux. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, à ma deuxième grossesse, je suis arrivée à l'hôpital, la maternité, en disant « Moi, j'ai fait une grosse dépression postpartum et j'ai eu une attention beaucoup plus soutenue, du coup, sur ma grossesse que lors de la première grossesse.
Du coup, pour revenir sur ce qu'est la dépression du postpartum, Élise, quels vont être les symptômes? Alors, Céline nous en a dit quelques-uns, les phobies d'impulsion, l'anxiété, le fait de se sentir pas à la hauteur.
Il y a les symptômes classiques de la dépression, avec la perte de sommeil, la perte d'appétit, la dépréciation de soi, la perte de plaisir. Ça, c'est vraiment les symptômes classiques d'une dépression. Après, il y a les symptômes beaucoup plus... précis par rapport à l'enfant sur la question de le regret de la vie d'avant, la difficulté à se projeter avec cet enfant. Sur des symptômes, il y a aussi une hypervigilance par rapport à ce bébé. Le fait, la perte de sommeil est souvent concomitante à une hypervigilance. Cet enfant, on va aller voir s'il respire bien, on va aller voir si il n'est pas en difficulté. Si c'est un bébé qui présente par exemple un RGO, on va être plutôt dans une grosse inquiétude et donc on va avoir tendance aussi à beaucoup le vérifier quand il dort. Et puis, il y a des choses qui peuvent, sur la question de par exemple la mort subite du nourrisson, ça peut être quelque chose qui turbine, quelque chose qui revient, des inquiétudes autour de la santé du bébé. Et s'il mourait de telle chose, et donc on a vraiment une hypervigilance qui s'installe dans le temps et qui va produire donc un manque de sommeil, et c'est un vrai cercle vicieux en fait, hein, de perte de sommeil, hypervigilance, et en fait on tourne en boucle. Donc après, sur la dépression du postpartum, on est vraiment aussi sur la question du lien à l'enfant et de ce que ça génère en termes de symptômes, mais aussi en termes de ce que ça peut réveiller aussi de ce que nous-mêmes, on a pu vivre quand on était enfant. Il y a des choses qui vont revenir à ce moment-là, nous hanter, et qui vont parfois venir parasiter notre propre relation à cet enfant. Il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de notre propre relation, mais de ce qu'on a pu vivre quand on était enfant.
Oui, il y a une réactivation de sa propre histoire de naissance, bien sûr.
Tout à fait.
Céline, est-ce que vous avez observé des signes de souffrance chez votre bébé quand vous n'alliez pas bien?
Oui, je pense que surtout j'ai l'impression ses difficultés de sommeil, elle était elle-même très vigilante en fait. Elle pleurait, il y avait beaucoup de pleurs, peu de sommeil. Et puis il y a eu à un moment donné, alors ça n'a pas duré longtemps, mais c'était suffisamment marquant quand j'allais vraiment très 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 mal. En fait, elle évitait mon regard et ça a été aussi absolument terrible. Et voilà, il y a eu ça. Et heureusement, enfin moi j'avais peur que ça dure à vie. Quand on est dedans, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, ce cauchemar. Bien heureusement, on peut établir autre chose.
Oui, effectivement, on remarque. Parfois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des signes chez l'enfant et pas chez la mère. En tout cas, des signes beaucoup plus visibles chez l'enfant que chez la mère. Et c'est là où c'est intéressant. Les professionnels de santé doivent être formés à l'observation de ce bébé. C'est de se rendre compte que lui vient dire des choses de la difficulté de sa maman, et qu'il faut peut-être aussi aller de ce côté-là et aller interroger, sans être nécessairement dans quelque chose d'intrusif, mais en disant, vous voyez, votre bébé, on voit que c'est compliqué pour lui de se tourner vers vous, de vous regarder. Il n'est pas dans une interaction sans que c'est... voilà. Alors après, le but, ce n'est pas non plus de culpabiliser la mère par rapport à ce que peut vivre cet enfant, mais c'est aussi de lui montrer que ça a un impact et que le fait d'avoir une prise en charge, c'est vraiment très soutenant, et pour la mère et pour l'enfant.
Oui, dans le postpartum, moi j'invite toujours les mères à venir avec leur bébé, et en effet, voilà, d'observer la relation entre la mère et le bébé va me donner des indications, parce que la mère n'est pas forcément en capacité aussi, comme vous le disiez, hein, Céline, de pouvoir décrire, mettre des mots sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent.
Et si je peux rebondir aussi, moi, quand j'ai été hospitalisée, on m'a fait rapidement un retour comme quoi, mais en fait, j'avais une relation avec mon bébé, ce qui finalement ne correspondait pas à ce que je ressentais. Et je pense qu'en fait, il y avait quelque chose de plus fort ou en tout cas de plus constructif qui se jouait sans que je m'en aperçoive dans ce sens-là aussi. Enfin...
Donc le fait que les professionnels le voient et vous le disent, ouais. C'est certainement quelque chose qui vous a aidé.
Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
Vous nous disiez, Élise, la spécificité de la difficulté maternelle, alors que ça soit baby blues, dépression du postpartum ou même psychose puerpérale, alors là c'est beaucoup plus rare, des décompensations très rapides après la naissance, c'est vraiment la question du lien et de la rencontre avec le bébé. Vous nous le disiez aussi, Céline, voilà, le fait de ne pas ressentir cet élan d'amour, de ne pas se sentir en lien avec le bébé, c'est bien ça la difficulté maternelle.
Oui, ce que je trouvais intéressant de mentionner, c'est aussi que pour certaines femmes, ça peut se manifester dans un élan, dans quelque chose de très fusionnel à cet enfant, dans une relation extrêmement forte où elles ont du mal à lâcher, à le laisser, à laisser les gens prendre le relais. Elles peuvent être en difficulté dans le lien, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui est ravivé de leur propre histoire, mais c'est qu'elles n'arrivent pas à lâcher. Et à se dire qu'il y a d'autres personnes qui sont autour pour donner des soins, pour apporter aussi de l'amour, parce qu'il y a quand même un couple derrière, et donc le papa peut aussi être présent. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'être aussi sur cette question de mère extrêmement fusionnelle, et qu'est-ce que ça vient réveiller dans le lien.
On parle de difficultés maternelles, mais est-ce que les pères peuvent aussi être touchés par, ou le deuxième conjoint ?
Oui, alors on sait que chez les pères, particulièrement chez les pères, on a 10% de dépression du postpartum. Donc on est presque sur un chiffre pas tout à fait identique, mais qui est quand même pas très loin. Sachant que les papas sont presque jamais accompagnés sur cette question-là. D'une part parce qu'ils reprennent, d'une part parce que ça va se manifester différemment chez eux. On n'est pas sur les mêmes symptômes, si je puis dire. Parce que voilà, ils n'ont pas du tout la même chose qui se manifeste. La femme est obligée de rester à domicile avec son bébé, elle va pas reprendre le travail, alors que le père, lui, part dès qu'il peut reprendre le travail. Et donc, ça peut être des pères qui sont extrêmement absents, qui vont avoir des horaires, des amplitudes horaires de travail qu'on n'a jamais connues. Et donc, voilà, chez les pères, il peut vraiment y avoir quelque chose de l'ordre de la fuite. Donc oui, les pères sont touchés, parce qu'en fait, on n'est pas seulement sur une question hormonale dans la dépression du postpartum. Il y a bien, bien plus que ça, en fait. On va aller toucher sur la question de la parentalité et de ce que c'est que d'être parent et de ce que ça réactive en termes d'histoire familiale, d'histoire d'enfance, de tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qui est légué par... les grands-parents, les arrière-grands-parents.
Oui, dans un épisode de parentalité, on a parlé du bouleversement psychique de la grossesse et de la crise identitaire que suscite le fait de devenir parent. Donc évidemment, ça touche tous les parents, père ou mère, ou seconde mère ou second père.
Ou parents adoptants.
Ou parents adoptants, bien sûr. Et on ne peut pas expliquer une difficulté qui, comme vous nous l'avez dit, Céline, peut durer plusieurs mois juste sur des raisons hormonales.
Non. Non, et c'est bien aussi ce qui empêche parfois certaines femmes et certains pères à aller consulter, c'est qu'ils sont vraiment sur cette question hormonale et c'est normal, ça va revenir à normal, il faut que les hormones reviennent. Alors oui, effectivement, il peut y avoir un laps de temps plus ou moins long pour que les choses rentrent dans l'ordre. Mais quand on traverse une difficulté maternelle, on sait que c'est pas seulement hormonal. Enfin, l'étape psychique que ça crée, la sensation parfois d'urgence et de survie, ça ne peut pas être hormonal. C'est pas quelque chose qui peut s'expliquer hormonalement parlant. C'est vraiment autre chose qui vient de se réveiller. Et là, c'est vrai que c'est parfois plus difficile. C'est pas une question d'être difficile, c'est une question d'accepter qu'on est en difficulté. Se dire qu'on est en dépression après l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose qui est souvent impensable, et pour le grand public, mais aussi pour soi-même. S'avouer qu'on n'est pas en capacité de s'occuper de cet enfant, c'est très douloureux.
Je repensais là, quand on parlait tout à l'heure des facteurs de vulnérabilité, dans un épisode de parentalité, on a parlé de la question des violences obstétricales, gynécologiques, la question du trauma au moment de l'accouchement. Est-ce que voilà, ça peut rentrer dans les différentes formes de difficultés maternelles?
Alors, en fait, les violences obstétricales et gynécologiques sont un facteur aggravant. Le contexte d'accompagnement de la grossesse et de l'accouchement peuvent vraiment impacter, ce ne sera pas la seule chose, mais ça peut vraiment impacter la relation à l'enfant. Après, ce qui peut se dérouler ensuite, je pense plus précisément au stress post-traumatique, le syndrome du stress post-traumatique, on est sur quelque chose qui est différent de la difficulté maternelle. Ça peut avoir un impact sur la relation au bébé et ça peut engendrer une dépression du postpartum par la suite, mais le syndrome post-traumatique en lui-même n'est pas une difficulté maternelle. C'est vraiment, on parle souvent des soldats qui reviennent de la guerre et qui déclarent un stress post-traumatique, c'est vraiment une réaction du cerveau par rapport à un épisode traumatique et physiquement et psychiquement où le cerveau est obligé de réagir, il va réagir assez souvent de la même façon, mais il y a des flashs visuels récurrents de l'épisode traumatique. Il y a des difficultés de sommeil. Ça peut ressembler d'ailleurs. C'est pour ça que parfois il y a des diagnostics de dépression du postpartum qui n'en sont pas, qui sont vraiment liés à l'accouchement. Et c'est aussi ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que le stress post-traumatique, il y a peu de soignants qui sont formés à cette problématique-là. Donc c'est important aussi qu'ils puissent savoir de quoi il en retourne pour chacun des diagnostics.
Vous parliez, Céline, de l'entourage, voilà, de la difficulté de l'entourage à voir vos difficultés. Est-ce que ça, c'est quelque chose, en tout cas dans les patientes que j'accompagne, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent, voilà, cette question de l'entourage. On disait voilà, que les pères aussi peuvent, eux aussi, s'effondrer.
J'aime pas faire des généralités, mais ils peuvent être extrêmement culpabilisants, dans le sens où ils peuvent dire... qu'il faut se bouger, que la personne a tout pour être heureuse, elle a un gentil mari, elle a un beau bébé, elle n'a pas de difficultés socio-économiques. Donc parfois, il y a des phrases qui ne sont pas nécessairement malveillantes de leur part, mais qui peuvent être perçues comme telles. Donc il y a vraiment une minimisation aussi, parfois, de l'entourage. Et puis, il y a aussi une comparaison, je pense aux grands-mères, qui comparent à leur propre accouchement, à leur propre vécu du postpartum, et qui disent « mais nous, à notre époque, on ne se posait pas de questions, il fallait faire les choses ». On est aussi sur des systèmes de comparaison. Après, quand l'entourage est bienveillant, c'est vraiment extrêmement important, parce qu'ils vont être entourants, ils vont être là pour prendre le relais, ils vont avoir des paroles parfois extrêmement bienveillantes, même simplement en disant qu'ils sont présents, en fait. Et parfois, la mère, elle n'a pas besoin non plus que l'entourage comprenne, elle a besoin d'être entourée. Donc, sentir que les autres personnes, ses proches, je parle de la famille, mais aussi parfois les amis, peuvent être là, peuvent entendre que pour elles, c'est compliqué. Pas nécessairement le comprendre, parce que je pense que c'est difficilement compréhensible en termes de ressenti. Mais l'entourage n'est pas toujours les mieux placés.
Par rapport justement à cette question de la prise en charge, alors Céline, vous nous avez dit, ça a été un peu progressif, il y a eu des consultations, puis vous avez demandé cette hospitalisation avec votre bébé. Il y a eu la question d'un traitement, vous avez eu un traitement médical et puis ce suivi s'est poursuivi par la suite. Quels sont les différents types de prise en charge, Élise ?
Alors, quand les femmes commencent à en parler, il peut y avoir... une prise en charge au niveau de la PMI. Certaines PMI ont des psychologues. Il y a des passages d'auxiliaires puéricultrices à la maison. On sait que certaines PMI sont vraiment sensibilisées aux problématiques de difficultés maternelles. Donc, elles vont mettre en place quelque chose autour des parents, à domicile et puis directement à la PMI. Et puis, quand elles voient que ce n'est pas suffisant, elles peuvent réorienter sur les unités mère-bébé. Donc, qui sont des unités de prise en charge conjointes la plupart du temps, même tout le temps, jusqu'à l'âge de la marche de l'enfant en général. Pour certaines, ça va un peu plus loin, on est sur 3 ans, avec une équipe de professionnels bien renforcée et de tout acabit. Pour certaines femmes, il n'y aura pas besoin de prise en charge en unité mère-bébé, et donc on peut aussi se tourner vers des psychologues qui ont une spécialité périnatalité, en tout cas qui ont été sensibilisés et formés à cette problématique-là. Sur la France, il y a quand même un certain nombre de professionnels qui accompagnent la périnatalité. Je pense aussi à domicile à une prise en charge via la CAF, une prise en charge par des TISF, techniciennes d'intervention sociale et familiale. Ce sont des personnes qui sont formées à intervenir dans les familles lors de difficultés passagères. Et donc, c'est un vrai relais à domicile le temps, en fait, tout cet étayage, il peut être mis en place de façon conjointe et qu'il y ait une prise en charge en unité qui peut être soit en temps plein, soit en hospitalisation de jour. À domicile, sur les autres jours, la personne, la TISF peut venir. Il peut aussi y avoir des visites à domicile de la PMI. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Les femmes le savent assez rarement, mais il y a quand même une proposition de prise en charge et de soins qui est assez conséquente en France. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir que ça existe et de savoir vers qui se tourner et à quel moment.
Est-ce que du coup, vous auriez quelques conseils ?
Je pense que du moment où on se sent, j'aime pas ce terme, mais anormal, ou en tout cas on se sent pas dans son état normal, c'est bien de sonner la sonnette d'alarme, de dire voilà, je me sens pas très bien pendant la grossesse, je me sens pas très bien depuis qu'il est arrivé. Est-ce que il y a des possibilités de prise en charge ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous, on insiste sur le fait de parler le plus rapidement possible, d'en parler très rapidement. Ce qui est compliqué, c'est comme le soulignait Céline. Quand on vit des phobies d'impulsion, par exemple, c'est difficile d'en parler parce que d'une part, on se sent folle. D'autre part, il y a une réelle peur de placement de l'enfant ou de jugement de ce qu'on peut éprouver. Donc, c'est aussi pour ça que c'est difficile d'en parler rapidement. Mais plus on en parle rapidement et plus la prise en charge va être précoce et mieux ce sera pour chaque partie de la famille et surtout pour que la relation au bébé puisse se mettre en place. On sait que ça peut prendre du temps, Céline le mentionne, mais voilà, l'essentiel, c'est que ça se fasse de façon vraiment précoce, qu'on ne traîne pas dans le temps quelque chose de douloureux.
Oui, parce que les phobies d'impulsion, on ne l'a pas précisé, mais les spécialistes de la périnatalité savent que ce sont des flashs, que ce ne sont pas des envies, que ce sont des pensées ou des sensations, des images qui s'imposent à la mère et que la mère ne va pas passer à l'acte. On sait qu'il n'y a pas de passage à l'acte dans le cas de phobie d'impulsion.
J'avais très peur, en fait, je voulais aller aux urgences psychiatriques depuis longtemps, mais j'avais très très peur qu'on m'enlève mon bébé. Et moi, ce que je voulais, c'était être prise en charge avec mon bébé, parce que je savais que si j'étais toute seule dans un coin, oui, ça irait, je respirais, et puis c'était pas ça que je voulais. Et j'avais très peur de ça, en fait.
Les phobies d'impulsion, la difficulté, c'est vraiment cette question de passage à l'acte. Les femmes qui les éprouvent, elles pensent nécessairement qu'il va y avoir passage à l'acte. Donc nous, on essaye toujours de rassurer sur cette question-là, sur le fait que l'angoisse peut être tellement massive que le cerveau, lui, réagit d'une certaine manière et que ça peut se faire sous forme de phobie d'impulsion. Donc effectivement, ça peut être des flashs visuels, ça peut être des pensées, des ruminations sur un sujet qui va prendre toute la place et parasiter tout le reste. Et en fait, ce qui est difficile, c'est d'arriver à sortir de ces ruminations et de se dire que c'est que de l'angoisse. Du moment où on est en difficulté, on est toujours dans quelque chose de l'ordre de... on voit tout en noir, et donc pour le coup, on va être la seule à ne pas pouvoir sortir de ce trou noir. Et ces phobies d'impulsion, elles vont nécessairement mener à quelque chose d'autre. Donc c'est aussi réussir à inverser la vapeur et à se dire « ce n'est qu'une réaction de mon cerveau et de mon corps ». Je dois les prendre comme telles, les accepter, les appréhender, mais c'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, quand elles arrivent, c'est vrai que dans les premières fois, c'est extrêmement déstabilisant. Et puis alors, pour le coup, on va pas en parler. Mais voilà, du moment où on a compris le fonctionnement, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté de comment ça fonctionne au niveau de ce cerveau et pourquoi ça arrive. Parce que je suis très angoissée. Donc là, des fois, il y a peu d'angoisse au moment où elle se manifeste. Mais pour autant, il y a une angoisse intérieure qui est quand même massive. Et donc, c'est de se dire, elle arrive, je la prends comme telle, elle n'est pas la réalité, je vais réussir ensuite à la faire repartir. Du moment où on est dans l'anticipation de la phobie, on sait qu'elles sont plus présentes, plus nombreuses, parce qu'à chaque fois, on se dit, je vais avoir une phobie d'impulsion en m'occupant du bébé. Et donc, parfois, on s'occupe moins du bébé du fait qu'on a peur d'avoir les phobies d'impulsion.
Par rapport à la question de la prise en charge, Élise, vous nous disiez, voilà, il existe plein de choses. Alors, pour pouvoir aller sonner aux bonnes portes, l'association Maman Blues a un annuaire qui a recensé sur toute la France, justement, ces professionnels sensibilisés, formés à la question de la difficulté maternelle.
Oui, en fait, depuis le début de l'association, ça fait 14 ans, on a décidé de constituer un annuaire, un répertoire interne qui est disponible seulement à nos référentes locales, à nos modératrices. Le but, c'est vraiment de pouvoir orienter les femmes dès qu'elles viennent jusqu'à nous. Les femmes, mais aussi les proches qui nous contactent ou les soignants qui se retrouvent démunis et qui ont besoin de coordonner. Le but, c'est de pouvoir orienter la personne en fonction de ses besoins, en fonction aussi parfois de la question financière. Pour certaines, elles n'ont pas la possibilité de consulter un psychologue de façon régulière. Donc, on essaye de voir ce qui peut être présent sur son territoire. Et le but, c'est vraiment qu'elle puisse avoir un certain nombre d'informations et ensuite, elle pioche. On n'aura pas nécessairement de retour sur le fait qu'elles ont appelé. En général, nous disent quand même qu'elles ont pu avoir la personne, qu'elles ont commencé à mettre en place un suivi, que ça a été vraiment bénéfique. Mais on n'attend pas nécessairement de retour. En tout cas, ce répertoire, il permet vraiment d'être exhaustif. Et on a des coordonnées sur la France, mais aussi sur l'étranger, puisqu'on a des femmes expatriées qui nous contactent, francophones, pour avoir des coordonnées et sur le lieu où elles résident. Mais si ce n'est pas possible, on essaye aussi de trouver de la distanciel des personnes qui font la consultation en visio.
Oui, ça se développe beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que propose d'autre l'association Maman Blouse? Céline nous disait voilà, qu'elle avait lu le livre de l'association, ce qui lui avait permis de se sentir un peu moins seule. Voilà, quel accompagnement propose l'association Maman Blouse?
À la base, Maman Blouse, c'est surtout, enfin, le cœur de Maman Blouse, c'est un forum, donc un lieu virtuel où les femmes peuvent venir déposer à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, ce qu'elles ressentent, sans peur du jugement, en toute bienveillance. Donc, au départ, c'était vraiment ça. C'était la mise en mots, la verbalisation écrite de ce qu'elles pouvaient éprouver et de se rendre compte d'une part qu'elles n'étaient pas seules, de briser l'isolement. Et deuxièmement, c'était aussi de se rendre compte qu'elle pouvait évoquer sans aucune peur ce qu'elle traversait. Donc, il y avait déjà le forum. Après, dans le temps, on a des personnes physiques qui se sont investies, des femmes qui ont toutes traversé la difficulté maternelle, des femmes qu'on nomme référentes locales, et donc qui s'investissent sur le terrain, sur leur département, alors de façon quand même limité, parce qu'on n'est pas non plus des superwomen, mais le but, c'est d'avoir une personne sur un département, plusieurs personnes, sur certains départements, il y a plusieurs personnes, qui fassent le relais, qui soient la soutenante pour les parents, les mères qui traversent une difficulté maternelle, qui soient le relais entre les parents et les professionnels de santé. Et puis, c'est aussi de faire connaître ce que sont les difficultés maternelles auprès des professionnels de santé, d'expliquer, d'organiser parfois des soirées débats, de collaborer avec d'autres associations pour parler de la difficulté maternelle et des propositions, enfin, la possibilité d'être prise en charge, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on vit une difficulté maternelle, vers qui on se tourne. Et puis, certaines de nos référentes organisent des groupes de parole régulièrement. Toutes les infos se retrouvent sur notre page Facebook. Actuellement, nos groupes de parole sont en visio pour s'adapter aux dernières mesures gouvernementales. Et le but des groupes de parole, c'est aussi, comme le forum, de briser l'isolement. Et c'est aussi parce qu'il y a un besoin des femmes de se retrouver entre elles pour évoquer ce qu'elles éprouvent. Dans ces temps d'échange, il y a vraiment quelque chose où elles se sentent en sécurité et où elles n'ont pas peur de se confier sur ce qu'elles éprouvent. Et puis, pour certaines, c'est souvent la première fois qu'elles échangent sur ce qu'elles sont en train de traverser. Ça peut être difficile, mais elles savent qu'elles ne vont pas être jugées. Et donc, parfois, elles peuvent revenir de façon régulière sur les temps d'échange.
L'association, c'est aussi, donc vous le disiez, Élise, le site internet, une page Facebook, une page Instagram, un compte Twitter, où vous relayez énormément aussi d'informations autour de la paternité, la maternité, la parentalité au sens large. La difficulté maternelle est encore très, trop taboue dans notre société qui véhicule des représentations très idylliques et idéalisées de la maternité. Comme vous nous l'avez bien dit, Élise, toute femme peut traverser une difficulté maternelle, que ce soit pour son premier enfant ou un autre, même si tout s'est bien passé avant. Ces difficultés mettent en lumière vraiment la dimension psychique de la grossesse et du devenir parent, d'émotions tout aussi essentielles que la physiologie de la grossesse et de la naissance. Ça concerne, vous nous l'avez dit, les femmes, mais aussi les hommes qui peuvent eux aussi être chahutés par le fait de devenir père. Les parents qui se sentent en difficulté, surtout ne pas rester seuls, poser des mots, parler, sortir du silence, trouver des professionnels sensibilisés, formés, qui pourront vous accompagner, est absolument indispensable. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Céline, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander ?
Comme lecture sur la difficulté maternelle, moi, le seul que j'ai lu, c'était Tremblement de mer. Et voilà, je m'en suis tenue là aussi parce que j'ai été tellement dedans que j'avais pas envie d'aller plus loin non plus. Mmh. Mais du coup, je connais pas forcément trop les autres références. Mais en tout cas, Tremblement de mer, pour se reconnaître et se dire « Ah bon, je ne suis pas seule, je ne suis pas folle », pour moi, c'était vraiment... ça a enclenché quelque chose.
Élise, est-ce que vous auriez des livres ou autre chose à nous recommander ?
En livre, il y a deux livres particulièrement qui m'ont marqué. Il y a « Maternité » de Françoise Guérin, qui est un roman. Françoise Guérin, c'est une psychologue clinicienne qui a travaillé longtemps en unité mère-bébé et qui part de son expertise pour écrire une histoire d'une jeune femme qui traverse une difficulté maternelle. C'est un roman à la deuxième personne. Au départ, c'est un peu déstabilisant et en fait, ça permet vraiment de rentrer dans la peau de ce personnage et de ressentir ce qu'elle éprouve par rapport à cette naissance. Donc, c'est un roman qui se lit très, très rapidement et qui est à la fois déstabilisant, mais ce qui permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet et d'être dans quelque chose où on est au plus près des ressentis de la femme. Et le deuxième roman que je conseillerais, c'est Litanie Valparaiso d'Héloïse Simon. C'est une journaliste qui s'est expatriée au Chili, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un roman d'une jeune femme, c'est semi-autobiographique, d'une jeune femme qui intervient à la radio et qui une nuit décide de fermer le studio et de se retrouver dans ce studio et de dire ce qu'elle l'éprouve depuis la naissance de cet enfant. C'est extrêmement drôle, elle utilise plein de jeux de mots, elle est très sarcastique aussi. C'est vraiment un chouette roman et je pense qu'il peut parler aussi à toutes ces femmes expatriées qui se retrouvent en difficulté du fait qu'elles sont très éloignées géographiquement de leur famille.
Moi, je recommanderais aussi tous les films documentaires qui ont été faits en partenariat avec l'association Maman Blues. Il y a notamment L'autre naissance, où là, on entend des femmes témoigner de ce qu'elles ont vécu. Un très grand merci, Céline, d'être venue partager avec nous votre histoire de devenir mère. Merci beaucoup, Élise Marsand. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Maman Blues. Pour soutenir l'association, n'hésitez pas à adhérer. Vous trouverez toutes les informations en ligne sur le site internet. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.